Allô, allô, ici Ciné Herri.
En 1964, sort sur les écrans le film britannique du réalisateur américain Joseph Losey, King and Country. Il s'agit en fait de l'adaptation d'un roman de James Lansdale Hodson, paru en 1955, et intitulé Return to the Wood. Cette œuvre a été tout d'abord adaptée au théâtre par John Wilson, avant de l'être finalement au cinéma par Losey. La traduction littérale de King and Country est « Honneur et Patrie ». Mais le titre adopté pour la sortie en France sera « Pour l'exemple ». Cette réalisation a pour acteurs principaux, d'une part la vedette Dirk Bogarde, qui a déjà tourné avec Losey deux fois, la première en 1954, The Sleeping Tiger, La Bête s'éveille, et surtout le chef-d'œuvre The Servant en 1963. L'autre rôle est tenu par un comédien alors très jeune, Tom Courtenay, que l'on venait de découvrir deux années auparavant dans The Loneliness of the Long Distance Runner, La solitude du coureur de fond, de Tony Richardson, d'après la nouvelle éponyme d'Alan Sillitoe. Résumons en quelques mots la trame de King and Country. Il s'agit de l'histoire d'un soldat, Arthur Hamp, qui est accusé de désertion pendant la Première Guerre mondiale. Le capitaine Hargreaves, interprété par Dick Bogarde, est alors commis d'office pour être l'avocat qui le défendra devant la cour martiale. Le parti pris dramaturgique retenu par Losey est celui d'un réalisme très cru et bien souvent insoutenable. Il nous fait partager la quotidienneté des soldats qui vivent dans les tranchées. Avec eux, nous subissons la promiscuité, la boue, la dysenterie, la crasse, le bruit incessant des canons, la mitraille de l'artillerie, la pluie battante, la neige, les latrines nauséabondes, les poux et les rats. Avec eux, nous avons froid, nous avons faim, nous avons peur, nous sommes cernés par la mort de tous côtés. La caméra filme imperturbablement l'horreur à laquelle sont confrontés chaque jour ces hommes. Elle nous fait sentir qu'ils ne peuvent y échapper. Elle nous emprisonne en quelque sorte avec eux et nous montre qu'il ne saurait y avoir d'autre issue que la mort. Losey entend bien ainsi ne pas épargner le spectateur. Il lui ôte délibérément tout confort. Le spectateur n'est pas à la fête. Il ne saurait davantage être au spectacle. Au début du film, le capitaine Hargreaves incarne l'institution militaire. À travers lui, c'est toute la hiérarchie qui s'exprime. Or, Hargreaves est contrarié d'avoir à défendre Arthur Hamp. C'est pour lui, dit-il, du temps perdu. En effet, il estime, selon ses propres termes, que le soldat a flanché, comme homme et comme soldat. Sans émotion, sans affect, implacable, le capitaine explique à un lieutenant de ses amis que si un chien se brise les reins, on l'abat, tout simplement. Face à lui, Arthur est un homme simple, sans éducation, habité par une confiance totale envers ses supérieurs, un homme qui n'imagine pas pouvoir être lourdement condamné. Dans le civil, il était cordonnier dès l'âge de 12 ans, puis il a été volontaire pour partir au front. Il est à la guerre depuis 3 ans déjà, lorsque tout à coup, il n'en peut plus, comme il le dit lui-même au capitaine. Il a pensé, dit-il en toute honnêteté, s'automutiler, mais finalement, Il ne l'a pas fait. Ne sachant pas le plus souvent mettre des mots sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il éprouve, Arthur déclare au capitaine. Je ne pouvais plus supporter les canons. Je ne pouvais plus retourner en première ligne. Je ne sais pas. Je n'avais rien prévu. J'ai marché pour m'éloigner des canons. Je m'imaginais que je rentrerais chez moi. J'étais comme dans un rêve. Je ne savais plus où j'en étais. Il ne fuyait donc pas, il ne se cachait pas, il errait, il déambulait en pleine confusion mentale. Devant ce récit décousu, plus ou moins incohérent, devant cette déréliction hallucinée, devant ce soldat qui ne savait plus qui il était, où il était, ni où il allait, devant ce soldat qui n'était plus lui-même, qui avait perdu la maîtrise de lui-même, le capitaine se prend progressivement d'empathie pour lui, car il comprend que cet homme a connu un état de sidération. Comme Hargreaves le précise lors de sa plaidoirie, il y a une limite à la résistance humaine. Aujourd'hui, nous dirions qu'il avait subi un choc, un stress post-traumatique. Sans jamais se plaindre, Arthur Hamp raconte par exemple au capitaine, d'une voix blanche et détachée, qu'un de ses camarades patrouillait avec lui et a été déchiqueté. J'ai rien vu, j'étais à côté de lui, je me retourne, plus de Willy. Sauf sur moi, j'en étais couvert, ils ont dû me donner un autre uniforme. La mise en scène glaciale et clinique de Lozay montre cependant bien l'évolution psychique du capitaine. Celui-ci comprend qu'Arthur Hamp est devenu absent à lui-même et d'une certaine manière émotionnellement mort. Comment, devant une telle commotion, une commotion aussi avérée, parler de désertion, et comment condamner moralement ce soldat? C'est pourtant ce que fait le médecin, qui, après l'avoir examiné 5 minutes seulement, déclare « Je ne vais pas laisser crever des blessés pour m'occuper des lâches. C'est un cas de frousse, de lâcheté et rien de plus. » Pour souligner combien ce procès n'est finalement qu'une sinistre palinodie, à l'instar de tous ces procès qui se sont tenus à cette époque, Lozay a mis en scène et en parallèle le procès d'un rat capturé par quelques soldats en mal de bouffonnerie. Puis il a filmé sa mise à mort, dans un jeu de massacre où le sadisme l'a disputé au désir d'emprise. Ensuite, il a intriqué à l'écran les deux mises en accusation, en nous laissant considérer que l'une ne vaut pas plus que l'autre et qu'elles sont tout aussi aberrantes l'une que l'autre. De cette façon, il nous donne à voir toute la dérision et le cynisme qui s'attachent au procès organisé par la hiérarchie militaire. Le film nous montre qu'il ne s'agit en fait que d'une caricature. Dans ces conditions, le capitaine en viendra à dire « Mais que faisons-nous ici, un procès bidon ?» Et après la sentence de mort, il s'exclamera « Pourquoi ? On va le fusiller pour être parti se promener ? Car ce n'était rien d'autre. Nous sommes des assassins. » Le colonel lui réplique toutefois que les faits n'ont rien à voir avec cette condamnation. Il faut simplement resserrer les rangs avant de repartir au combat. Réaffirmer l'ordre de l'institution, un point c'est tout. La preuve que les faits n'avaient aucune importance, c'est que le soldat fusillé, pour l'exemple, sera ensuite déclaré mort au combat. Rappelons que pendant la Grande Guerre, 2400 poilus ont été condamnés à mort en France, et 600 effectivement fusillés pour l'exemple. Quant aux autres, ils ont vu leur peine commuée en travaux forcés. Ces condamnations ont été prononcées pour refus d'obéissance, mutilation volontaire, abandon de poste devant l'ennemi, délit de lâcheté ou mutinerie en 1917, ou bien encore désertion, comme il est reproché au soldat Arthur Hamp, bien que ce chef d'inculpation ait été ensuite officiellement occulté. Comme l'on sait, en France, la question de la réhabilitation globale de ces soldats n'a toujours pas été tranchée, et la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale a remis le 1er octobre 2013 au président de la République française un rapport sur cette question éminemment politique. En revanche, le gouvernement britannique a demandé en 2006, par voie législative, la réhabilitation des 306 soldats fusillés pour, je cite, désertion, mutinerie ou refus de combattre pendant la Première Guerre mondiale. Mais laissons plutôt le mot de la fin au capitaine Hargreaves, qui déclare: souvenez-vous que si justice n'est pas rendue à un homme, alors les autres meurent pour rien. Avec King and Country, Lozay signe là un film politiquement très engagé, comme le seront toutes ses œuvres. Proche du Parti communiste américain, il a lui aussi, comme Dalton Trumbo et Charlie Chaplin, été victime du McCarthyisme. Lui aussi a été sommé de se présenter devant la chambre du comité des activités anti-américaines. Lui aussi a dit non. C'est pourquoi il a finalement décidé de s'exiler pendant quelques années au Royaume-Uni, où il a réalisé plusieurs films, dont King and Country.